Comment on prépare quelqu'un qui deviendra chaman?
C'est une des caractéristiques essentielles du chaman, c'est son itinéraire chamanistique, c'est-à-dire ce qui l'amène à devenir chaman, ce qui l'amène à devenir l'élément intégrateur de l'ensemble de sa société, c'est précisément par le contraire que le chaman va le devenir. C'est-à-dire la première étape qui fait dire aux gens dans une société qu'un tel est appelé peut-être à devenir chaman, la première étape, c'est sa marginalité, c'est-à-dire son rejet venant de la société et son propre rejet vis-à-vis de la société. Le chaman est toujours quelqu'un qui se distingue. C'est quelqu'un qui a une émotivité très forte, ordinairement. C'est quelqu'un qui va réagir très violemment ou très de façon marginale et originale, tout au moins, par rapport à l'ensemble de sa société.
Il n'est pas un tiède, là.
C'est ça, oui, effectivement.
Il prend des positions radicales et puis...
Et ça va l'amener à la marginalité. C'est-à-dire le chaman... Il risque d'être exclu et va s'exclure lui-même aussi. Il va faire ce qu'on appelle... il va faire un rite de passage qui va le séparer de sa société. Et on dit, bon, chez certains auteurs, puis même on retrouve ça chez plusieurs, je pense bien, il va se démembrer. C'est-à-dire, dans cet itinéraire, dans sa ségrégation à la fois volontaire et involontaire de sa société, il va apprendre à se démembrer. C'est-à-dire, il va connaître son corps. Il va connaître tous les aspects corporels, physiques de son corps. Bon, dans le cas du Christ, qu'est-ce qui s'est passé avant, de 0 à 40 ans? Il a probablement fait tout un itinéraire, lui aussi, qui s'est, en quelque sorte, matérialisé, ou dont ses 40 jours au désert ont été la pointe de l'iceberg.
C'est ça.
D'autres choses avant ça.
C'est ça, on nous a caché ce temps, cette période, parce que peut-être était justement pas un exemple à donner à tout le monde, puisqu'il se marginalisait peut-être de plus en plus.
Ça,
hein.
je trouve cette remarque-là, je la fais mienne. J'y avais pas pensé, mais je la trouve tout à fait pertinente.
Oui, tant qu'à parler d'un marginal, on peut si bien taire tout ça. Et quand il est revenu, parce qu'il revient finalement, il va être accepté dans le clan après.
Bon, quand il revient, il faut progressivement qu'il fasse ses preuves. Quand il est revenu en Galilée, quand il a commencé sa mission,
il a fallu
qu'il fasse ses preuves.
C'est ça, faire des guérisons ici et là.
Exactement, oui.
Prêcher, enseigner des choses.
Ouais. Et donc, il s'est fait remarquer et il est devenu de plus en plus reconnu par sa société et en même temps rejeté.
Oui, et ceux qui l'ont le plus confronté, c'était les dépositaires de la religion.
Oui, effectivement. Oui.
Parce que le chaman, vous nous l'avez expliqué tantôt, religion et chaman, c'est deux réalités, c'est deux approches, c'est deux voies pour toucher l'invisible et puis entrer en relation avec les dieux, où tu deviens l'esclave des dieux, où tu domines les dieux.
Effectivement.
C'est un dieu, c'est toi qui...
Mais effectivement, c'est que le Christ va présenter une religion de l'immanence.
Ouais.
C'est Dieu incarné. C'est une religion qui est dans la chair. Le chaman aussi, c'est une religion immanente, puisqu'il porte dans son corps, dans sa chair, la religion de son... Alors, le Christ, lui, son rôle va être, dans un premier temps, identique à celui-là. Mais la préoccupation du Christ, c'est de faire de chaque homme un chaman. Et c'est dans ce sens-là qu'il rachète l'humanité. Et pour faire de chaque homme un chaman, il faut que ce soit maintenant toute l'humanité qui s'engage dans un cheminement qui va ressembler ou qui peut être analogue à celui du Christ. Le Christ, par sa vie, donne le prototype ou donne le modèle que l'humanité devra suivre durant toute sa vie. Ça n'est que plus tard que là, il a affirmé une religion de l'immanence, c'est-à-dire une religion de l'intérieur, contre une religion de la transcendance, c'est-à-dire Yahvé qui impose sa loi à l'homme, tandis que le Christ, lui, impose en quelque sorte, propose en quelque sorte l'amour. Mais cet amour-là, c'est un amour immanent, c'est un amour qui surgit de l'homme plutôt qu'imposé par une loi. Alors, il y a une grande différence entre le judaïsme et le christianisme. S'il y a une grande différence, elle réside dans ce jeu d'immanence et de transcendance. Mais le Christ lui donne un modèle à l'humanité, et l'humanité, à travers ce qu'on pourrait appeler son expérience de 2000 ans de christianisme, l'humanité va en quelque sorte franchir ce qu'on pourrait appeler la vie cachée du Christ, qui est une vie intégrée à l'institution. C'est une vie qui est institutionnalisée dans le judaïsme. Alors, nous, l'humanité, depuis 2000 ans, l'humanité de l'Occident, tout au moins, là, on est en quelque sorte sous le coup toujours d'une religion de la transcendance. Si on n'est pas rendu... C'est-à-dire, on commence avec maintenant certains courants, comme celui du Nouvel Âge, par exemple, qui est annonciateur, à mon avis, d'une incarnation de l'esprit, une incarnation d'un ce que Teilhard de Chardin appelle d'un Christ universel dans l'histoire actuelle de l'humanité. Nous allons maintenant, l'humanité, tout au moins l'Occident, va maintenant actualiser pleinement son, on pourrait dire, son chamanisme ou son christianisme. Ça a pris 2000 ans de mortification de la chair pour enfin parvenir à la résurrection de la chair. Et c'est ça le rôle du chaman, c'est de ressusciter la chair. Le chaman convertit l'âme, et la conséquence de la conversion de l'âme, et moi je pense qu'actuellement on est en pleine transformation, il y a un désordre planétaire actuellement, qui à mon avis ne fait qu'annoncer une résurrection, un nouvel ordre, et après ces 2000 ans de mortification de la chair et de mort, finalement, et actuellement, on est dans l'acné, on est dans le paroxysme de la mort, ça ne peut que déboucher sur une résurrection.
Au début, vous nous parliez du chaos.
Oui.
On est au moment du chaos.
Je pense que, en tout cas, il n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais je pense que s'il n'arrive pas, s'il ne devient pas évident et opérant, c'est-à-dire efficace, c'est-à-dire le chaos, son rôle, c'est de créer un cosmos. Du chaos, on va au cosmos, oui. Effectivement. Et le désordre, son rôle, c'est de créer de l'ordre.
Un nouvel ordre,
effectivement. Si, je ne sais pas quand est-ce, je me défends bien d'être un prophète, mais je pense qu'il y a des conditions, en tout cas actuellement, qui nous amène à penser, qui donne à penser que le chaos peut devenir évident. Et,
chaos à plusieurs niveaux.
Planétaire, écologique, aussi bien qu'économique.
C'est ça, seulement que sur le plan écologique, hein, déjà les perspectives nous annoncent que dans, ou les prospectives nous annoncent que dans 50 ans d'ici, la Terre va être devenue quasiment invivable, en tout cas compte tenu de nos possibilités biologiques actuelles.
Oui.
Bon, alors, est-ce qu'on n'est pas sur le point de passer de la mortification de la chair à la résurrection de la chair, en passant par un rite de passage planétaire qui serait extrêmement éprouvant, comme l'est le rite de passage du chaman, qui va mourir aussi? C'est une des caractéristiques de ce qui fait un chaman, c'est que dans son rite de passage, au moment de sa marginalisation, au moment de son exclusion de la société, son rite de passage se termine par une véritable mort et une résurrection.
Oui, c'est bon, mais c'est quand comme le Christ?
Exactement, tout à fait
mais
comme le Christ.
Dans l'histoire de Jésus, il y a un élément que j'aimerais vous m'expliquer, parce que Adam, je dois vous dire, Jean-Jacques Dubois, que tout ce qu'on dit est conforme au portrait qu'on s'est fait de Jésus. Si tout est assez conforme, expliquez-moi donc l'Eucharistie, parce que c'est un rituel extrêmement important dans l'Église, la messe, qui est le repas, où on partage un hostie en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Est-ce que les chamans font des choses à ce point qu'ils deviennent quelque chose d'autre?
Un des rituels chamaniques, c'est de communier à la chair totémique, c'est-à-dire dans chaque groupe primitif, ce que je mets toujours entre guillemets, évidemment. Chaque groupe primitif a un esprit principal, un esprit central. Il peut y avoir quelques esprits. Et cet esprit-là s'incarne ordinairement souvent dans un animal. Ça peut être un végétal aussi, ça peut être un insecte, ça peut être bon, toute forme de vie, finalement. Ça peut être le soleil, comme chez les Aztèques, par exemple. Ça peut être, un astre. Alors, tout ce qui semble dynamique, tout ce qui semble participer, de l'économie cosmique, peut constituer un totem. Or, le totem, périodiquement, évidemment, c'est un aliment tabou. C'est défendu de le manger. Mais périodiquement, on peut, et non seulement on peut, mais on doit le manger. La transgression du tabou, elle est recommandée et elle est même obligatoire. Et à ce moment-là, le chaman est d'autres personnes aussi, ça peut être les anciens, parfois ça peut être tout le clan aussi, vont communier au totem. Or, en communiant au totem, ils reconstruisent en quelque sorte la solidarité du groupe. Parce que la fête religieuse, ou le service religieux, ou le rituel religieux intervient toujours au moment, à des moments bien précis d'un cycle, et ce moment-là, c'est celui de la régénération de la société. Sans ce rituel religieux, la société s'effondrerait. Ce qui permet à une société de perdurer, de survivre l'épreuve du temps et l'usure du temps, c'est qu'à un moment donné, tout s'arrête. Il y a une fête, ça peut être la fête orgiaque, ça peut être la fête dionysiaque, ça peut être le repas pascal, et ça permet de racheter, comme on dirait dans le christianisme, la société. Et en communiant au corps du Christ, en communiant à l'Eucharistie, on communie en quelque sorte à l'essence de la société à laquelle on appartient, c'est-à-dire à l'Occident. Le Christ devient en quelque sorte comme le totem pour le groupe primitif, devient la représentation de son groupe social, c'est-à-dire pour nous c'est l'Occident, et bien plus que la représentation, comme pour le totem c'est pas juste la représentation de la société, c'est aussi la société. Il y a ce qu'on appelle une sympathie magique, où l'élément, le symbole, la chose, et l'équivalent, ou non seulement l'équivalent, mais est la société. Il n'y a plus de distinction dans l'esprit des personnes qui vivent dans des sociétés chamanistiques, comme chez les chrétiens, il n'y a plus de distinction entre le symbole et la chose. Le symbole, c'est la chose. Contrairement à tout ce qu'on dit en sciences humaines, le symbole n'est pas la chose, mais représente la chose. Ceci, au niveau de la pensée religieuse, ça n'existe pas. Le symbole, c'est la chose. Et nous, l'Occident, les Occidentaux, quand nous communions, nous, en quelque sorte, quand nous communions à l'hostie, c'est au Christ lui-même, évidemment, parce qu'on fonctionne aussi selon ce principe
de
magico-religieux, c'est ça. Alors, donc, même si le christianisme, on a longtemps combattu la magie subsiste aussi dans le christianisme, et le centre même de la ritualité et de la foi chrétienne, catholique particulièrement, c'est cette magico-religiosité entre le Christ et l'hostie. L'hostie, ça n'est pas ce qui représente Christ, mais c'est le Christ lui-même, comme la poupée du vaudou, dans le rite vaudou, quand on tue la poupée, celui qui est la poupée, ou la poupée est celui qui est tué là-bas.
C'est pour ça que vous parlez de magie opérationnelle, c'est ça?
Oui, effectivement.
Mais est-ce qu'il y a une question de croyance? Si on y croit pas, ça marche pas, ou veut pas, ça marche pareil. Autrement dit, celui qui est la poupée, s'il ne sait pas qu'on a fait une poupée de lui en argile puis qu'on va le piquer, il aura pas mal. Ou ça marche pareil. Bon, autrement dit, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, la religion,
elle est efficace quand même.